Il est 7h.
C'est une fierté. Moi, j'aime quand les gens sont contents. Ça fait oublier un peu les soucis de tout le monde. Voilà, j'espère continuer à leur donner ces choses-là.
6 ans qu'il n'avait plus marqué en bleu. Karim Benzema, auteur d'un doublé hier soir contre le Portugal. Score final 2-2, ce qui offre à la France la première place de son groupe dans cet Euro. On va en reparler avec vous, Virginie Fulpin, dans l'édito sport.
Est-ce qu'on peut passer à autre chose? 2 buts, un grand sourire et une libération. Karim Benzema, oui, il est bien de retour en équipe de France pour ceux qui en doutaient encore.
Dans ce journal aussi, les tensions au sein du gouvernement après le premier tour des régionales. La mobilisation face à la progression du variant Delta. Et puis, ces logiciels antivirus ont rendu son nom célèbre. John McAfee est mort hier à l'âge de 75 ans. Accusé de fraude fiscale, il a mis fin à ses jours après une vie rocambolesque. Juste après ce journal, l'éclairage éco, Nicolas Barré.
Et on va parler industrie de défense. Le projet d'avion de combat européen du futur avance, l'argent arrive, mais ça n'a pas été sans mal.
Le regard international, c'est Vincent Hervouet, et puis on va retrouver Stéphane Bern avant 7h30 pour un mot d'histoire. Très bon réveil à toutes et à tous, vous êtes sur Europe 1.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
Le journal de 7h, c'est le journal de Marion Calais. Bonjour Marion.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous. Au début, on a eu peur de s'ennuyer. Puis, on a commencé à se crisper et enfin à se laisser embarquer dans ce match entre la France et le Portugal. Un match porté par 2 hommes. Cristiano Ronaldo d'un côté, 2 buts sur pénalty. Et au passage, le record du monde du nombre de buts en sélection égalé, 109 réalisations.
En face, son ancien coéquipier du Real Madrid, Karim Benzema, lui aussi auteur d'un doublé, ce match nul de partout permettent à la France de décrocher la première place de son groupe.
Avec un 8e de finale plus abordable contre la Suisse, un résultat célébré donc comme une victoire à Budapest où Jean-François Pérez est l'un des envoyés spéciaux d'Europe 1.
Il est plus de minuit à Budapest, 1 heure que ce match fou est terminé. Dans les tribunes, des centaines de supporters français continuent de chanter à tue-tête. La France a eu chaud à tous les sens du terme. Heureusement, Karim Benzema est enfin sorti de sa boîte pour inscrire un doublé. Ses premiers buts en bleu depuis 6 ans, ses premiers à l'Euro depuis 2008. De quoi savourer face aux supporters.
C'est une fierté, moi. Moi, j'aime quand les gens sont contents, nous supportent. Ça fait oublier un peu les soucis de tout le monde. Et on est là pour rassembler un maximum de personnes. Donc, tout le monde est présent, tout le monde est derrière nous. Et moi, voilà, j'espère continuer à leur donner ces choses-là.
La suite s'écrira lundi à Bucarest face à la Suisse, un adversaire à la portée des Français. Premier de leur groupe, certes, mais pas toujours rassurant. Après Dembélé, Digne s'est blessé et la moitié de l'équipe a été avertie. Il reste 5 jours à Didier Deschamps et à son staff pour réparer les corps et calmer les esprits. Budapest, Jean-François Pérez, Europe 1.
Et hier soir aussi, dans cet Euro de foot, qualification de l'Espagne, qu'il a emporté 5-0 face à la Slovaquie. C'est passé aussi pour l'Allemagne qui a fait match nul 2-2 contre la Hongrie.
Et franchissons cette frontière entre le foot et la géopolitique. La Hongrie qui va s'inviter aujourd'hui au cœur d'un autre rendez-vous européen. Les dirigeants des 27 réunis en sommet ce jeudi à Bruxelles.
Et il sera notamment question de cette loi hongroise qui interdit la promotion de l'homosexualité auprès des mineurs. L'affaire a déjà suscité des remous en marge de l'euro avec le refus de l'UEFA de laisser Munich éclairer son stade aux couleurs de la bannière LGBT. Hier, la présidente de la Commission européenne a qualifié de honte ce texte.
Ursula von der Leyen qui était hier à Paris pour annoncer l'approbation du plan de relance français, un plan à 100 milliards d'euros dont une quarantaine provenant de subventions européennes. Désormais, les premiers versements sont attendus dans les prochaines semaines, Carole Ferry.
Oui, un premier chèque de 5,1 milliards d'euros. Les versements se feront par étapes. À l'automne, nous demanderons un nouveau versement pour 2022 d'environ 7 milliards d'euros. Le montant reste à confirmer. Et nous aurons comme ça chaque année un nouveau chèque jusqu'en 2026. Et ce n'est pas un chèque en blanc. À chaque nouveau virement, l'Union européenne va vérifier qu'on tient bien nos engagements, qui prévoient notamment que 50% des sommes soient affectées à la transition énergétique, 25% à la transition numérique. Il faudra prouver par exemple que le dispositif MaPrimeRénov fonctionne, c'est déjà le cas, que les bâtiments de l'État ont bénéficié comme promis d'une rénovation énergétique. Les premiers travaux ont commencé. Le gouvernement s'est également engagé à former 5 millions de Français éloignés du numérique en 3 ans. Eh bien, il faudra prouver que cela a été fait. Vous avez comme ça 150 cases à cocher. Pour le moment, nous avons réalisé un tiers des objectifs. Le gouvernement s'est laissé jusqu'en 2022 pour atteindre les 100%.
Le gouvernement qui, par ailleurs, s'agite après l'échec de la majorité au premier tour des élections régionales et départementales. Règlement de compte hier en Conseil des ministres avec plusieurs poids lourds qui s'écharpent, comme nous le raconte Hélène Terzian pour Europe 1.
Un conseil des ministres aux allures de cours d'école. Le président n'est pas encore là et deux poids lourds du gouvernement s'écharpent. Éric Dupond-Moretti accuse Gérald Darmanin de trahison. En cause, les félicitations appuyées du ministre de l'Intérieur à Xavier Bertrand. Après le score du président sortant des Hauts-de-France, Gérald Darmanin incite à voter pour celui qu'il désigne comme son ami. Récompensé, dit-il, pour son bilan. Le ministre candidat au départemental se réjouit par ailleurs du score de sa liste, 6 fois mieux que celle de La République En Marche au régional. Remontée, le garde des Sceaux dénonce un manque de loyauté. Réponse cinglante du patron de Beauvau. Commence par gagner une élection. Une cacophonie que l'on retrouve de l'autre côté de la table. Elisabeth Borne et Barbara Pompili règlent elles aussi leur compte. La ministre du Travail reproche à sa collègue de la transition écologique d'approuver par le biais de son mouvement la décision du Conseil d'État de suspendre la réforme de l'assurance chômage. Deux altercations qui révèlent les divergences au sein de l'exécutif alors que la question d'un remaniement pourrait être sur la table.
La Poste à la rescousse après les ratés dans la distribution des professions de foi. Elle va se charger d'acheminer 5 millions de plis électoraux en vue du second tour. Et puis c'est un autre couac du premier tour. Le manque d'assesseurs à Marseille qui a empêché certains bureaux de vote d'ouvrir à l'heure. Pour motiver ses agents, la ville fait passer à 350 € la prime donnée à ceux qui tiendront un bureau de vote.
7h06 sur Europe 1. Pourrait-il à lui seul faire rebondir l'épidémie ? Le variant Delta, en tout cas, inquiète. Il pourrait représenter, écoutez bien, 90% des nouveaux cas en Europe dès la fin du mois d'août.
Estimation du Centre européen de prévention et de contrôle des maladies. À l'heure actuelle, en France, le Delta, c'est 9 à 10% des contaminations. Mais sa propagation rapide incite à la prudence. C'est ainsi que chez Airbus, à Toulouse, après la découverte récente de 3 cas, une campagne massive de dépistage a été lancée. Reportage du correspondant d'Europe 1 en Occitanie, Benjamin Peter.
J'ai un petit peu la tête en arrière. Et est-ce que je peux faire votre dernier droite, monsieur ?
Oui.
Donc là, je tourne à gauche, à droite. Ça va ?
Ça va.
Vous voulez un petit mouchoir ?
François est venu sur sa pause déjeuner. Il n'a plus qu'à attendre les résultats pendant une quinzaine de minutes.
On nous a encouragé, l'ARS apparemment nous encourage à faire des tests pour perfectionner leur modèle de propagation du virus sur le virus Delta. Donc je le fais, puis en même temps ça me permet d'avoir un test pour savoir si moi je suis positif, sachant que j'ai été vacciné il y a une semaine.
C'est parce qu'un cas de variant Delta a été identifié il y a quelques jours chez un salarié sur un prélèvement datant du mois de mai que l'ARS a mis en place ce dépistage ici, à grande échelle, sur la base du volontariat. Ceux qui le souhaitent peuvent même ensuite se faire vacciner sur le parking. Pour Pierre Barouillet, le directeur du site, ça permet d'évaluer les protocoles sanitaires de l'entreprise.
Notre objectif a été de faire en sorte que nous ayons un maximum de dépistage pour aider l'ARS à comprendre comment peut se répandre ce variant. Et puis ça prouve à nos employés que l'établissement est safe parce qu'en fait on a eu un cas, un porteur, et un mois après on n'a pas eu une explosion. Ce qui montre aussi que le comportement des employés et les protocoles qu'on a mis en place, les masques, etc., portent leurs fruits.
Et pour le moment, sur un peu plus de 500 prélèvements effectués sur les 6000 salariés du site, aucun cas positif n'a été détecté. À Toulouse, Benjamin Peter, Europe 1.
Et aujourd'hui, le Premier ministre et son ministre de la Santé se rendront dans les Landes où le Delta représente 70% des cas positifs, un déplacement qui sera aussi l'occasion de rappeler l'importance des gestes barrières, même pendant les vacances.
Les vacances, tiens, qui débutent donc officiellement dans un peu moins de 15 jours, avec une tendance qui se dégage déjà, le besoin d'espace pour se retrouver en famille ou entre amis.
Oui, et les locations de maisons sont donc plus que jamais prisées. Pour Europe 1, Maud Descamps.
Les chiffres parlent d'eux-mêmes. 60% de réservations en plus pour les maisons cet été par rapport à 2019 à la même période. Du jamais vu pour Corinne Joly, présidente du site de location PAP.fr.
Les maisons, depuis début avril, sont prises d'assaut, alors que les appartements, pour l'instant, sont à moins 10%. Donc on voit que c'est très marqué. Et un autre point qui est intéressant par rapport aux années précédentes, c'est que globalement, on cherche des hébergements plus grands. Les Français vont partir plus nombreux. Il y a beaucoup de personnes qui vont partir à deux familles ou avec des amis. C'est vrai que d'habitude, la moyenne, c'est plutôt entre 4 et 5. Et là, on est entre 5 et 6 personnes en moyenne.
Le budget des vacances, lui aussi, augmente. Le prix des locations de maisons a grimpé de 12%. Un des effets de la très forte demande en France cette année. Il faudra compter en moyenne 200 € par personne pour une semaine. Côté destination, le Var reste plébiscité avec 50% de réservations en plus qu'en 2019. Autre augmentation spectaculaire, la Dordogne et le Lot, 80% de demandes en plus cette année. Certains vont sûrement devoir dire adieu à la tranquillité.
Son nom ne vous est sans doute pas inconnu, McAfee, John McAfee, le créateur du logiciel antivirus, est mort dans une prison de Barcelone.
Bonjour Lénaïque Monnier.
Bonjour.
Il a été retrouvé pendu dans sa cellule quelques heures après après qu'un tribunal avait décidé son extradition vers les États-Unis, qu'il accuse de fraude fiscale.
Oui, des millions non déclarés par McAfee, qu'il avait gagné pendant sa première carrière de petit génie de la Silicon Valley, puisque comme Bill Gates ou Steve Jobs, c'est en créant un antivirus dans son tout petit appartement qu'il était devenu richissime. Après cette première vie, McAfee s'était tourné vers les crypto-monnaies dont il était devenu un gourou. Il clamait partout qu'elle lui rapportait 2 000 $ par jour, incitait son million d'abonnés sur Twitter à investir dedans, sans les prévenir qu'il prenait une belle commission au passage. Et c'est ce manque de discrétion qui avait poussé le fisc américain à se pencher sur son cas.
John McAfee, qui est aussi un personnage sulfureux, hein, côté vie privée.
Amateur de théorie du complot, proche de Jeffrey Epstein, poursuivi pour abus sexuels sur des dizaines de mineurs, McAfee se rêvait président des États-Unis en 2016. Il avait d'ailleurs annoncé sa candidature sous la bannière des libertariens, qui militent notamment pour une réduction drastique de la fiscalité. Un personnage erratique qui risquait donc 30 ans de prison en rentrant aux États-Unis. Il a préféré se suicider dans sa cellule à 75 ans.
Un portrait signé Lénaïque Monnier pour Europe 1. Et puis après la sélection, voici la composition du jury du Festival de Cannes avec ce matin une petite surprise. Eh oui, parce que la chanteuse Mylène Farmer fera partie de ce jury aux côtés de Tahar Rahim, de la réalisatrice franco-sénégalaise Mati Diop ou encore de Mélanie Laurent.
Enfin, direction le Théâtre de la Villette à Paris pour un spectacle à la croisée de nombreuses disciplines.
Oui, un spectacle en partenariat avec Europe 1. Peer Gynt, c'est son titre, œuvre classique d'Ibsen adaptée en version contemporaine. Diane Chenouda l'a vu pour Europe 1.
Le son d'une guitare live, une vieille caravane, un décor déglingué de fêtes foraines. Et nous voilà embarqués dans l'univers fantastique de Peer Gynt, un jeune hors-la-loi qui rêve d'être roi.
Les chapeaux se lèvent, les femmes s'inclinent, tous ont reconnu Peer Gynt, empereur.
Le héros de la pièce va vivre 1000 vies. On part avec lui dans le pays des trolls, puis dans le désert et l'océan. Un spectacle qui mêle théâtre, danse, musique, cirque, servi par des acteurs bluffants, à commencer par le jeune Radouane Leflahi, magistral dans le rôle-titre.
C'est le voyage d'un petit garçon qui se pose la question de qu'est-ce que ça veut dire être moi-même. Et puis, cette question va l'amener à vivre énormément d'aventures. Et je crois qu'on s'invente tous des histoires. Et Peer Gynt, c'est ça, il a besoin d'histoires pour exister.
Fabuleux, complètement créatif, un acteur formidable, mise en scène géniale, c'est merveilleux, on est encore sous le charme.
Ah ben, j'ai trouvé ça formidable, magnifique.
Toute la puissance et la magie du théâtre au sommet de son art.
Peer Gynt, spectacle européen à voir à La Villette encore ce soir et demain avant une tournée à l'automne.
Merci Marion Calais, c'était le journal de 7h sur Europe 1, une nouvelle édition avec Sophie Echen à 7h30 tout à l'heure et à 8h, dossier de la rédaction, la question de la vaccination, est-ce qu'on a atteint un plafond, celle du variant Delta aussi. Est-ce qu'il faut s'en inquiéter ? En Israël, on dit craindre une nouvelle vague. Le tête-à-tête Europe Matin avec le professeur Cyril Cohen, directeur du laboratoire d'immunothérapie de l'université de Bar-Ilan en Israël, justement. 7h13.
Europe Matin, le 7-9. Mathieu Béliard.
Mais pour l'heure, l'éclairage écho avec Nicolas Barré, directeur de la rédaction des Échos. Bonjour Nicolas.
Bonjour Mathieu.
Le projet est majeur pour l'avenir de l'industrie aéronautique européenne. L'Allemagne a donné son feu vert au financement du futur avion de combat européen.
Oui, alors un feu vert crucial et inextrémiste. C'était le dernier jour de session du Parlement allemand, hier, avant la pause estivale. Or ensuite, il y a des législatives en Allemagne et nul ne peut dire si la future majorité soutiendrait encore ce vaste projet d'avion de combat porté par 3 pays, France, Allemagne et Espagne. Ce vote hier était donc très important. Il permet d'engager la première phase d'un programme destiné à concevoir et à fabriquer le successeur du Rafale et de l'Eurofighter. Un projet de cette envergure, ça se prépare aujourd'hui pour avoir un avion de combat opérationnel en 2040 et ne pas se retrouver dépendant technologiquement des États-Unis.
L'Europe veut être indépendante stratégiquement, mais en pratique, les États ont du mal à se mettre d'accord.
Oui, ce projet que l'on appelle SCAF, pour Système de Combat Aérien du Futur, a été lancé il y a 4 ans par Angela Merkel et Emmanuel Macron. Les Espagnols nous ont rejoints ensuite. Mais c'est seulement donc aujourd'hui que les États ont sécurisé les 4,5 milliards d'euros nécessaires à la première phase du projet jusqu'en 2027. Les principaux industriels, dont Dassault, le maître d'œuvre, mais aussi Airbus, ainsi que des groupes allemands et espagnols, ne sont pas encore complètement alignés sur les rôles de chacun, ni sur les questions très sensibles de propriété intellectuelle. Les compétences en Europe sont là, Mais il est difficile de faire travailler tout le monde ensemble.
Et pourtant, les projets ne manquent pas.
Eh bien oui, en plus de cet avion de combat, les Européens ont un projet de drone capable de surveiller un large théâtre d'opération pour remplacer le Reaper américain. Mais ce projet mené sous leadership allemand avance très lentement. Le projet de char de combat du futur, censé remplacer les chars Leclerc français et Léopard allemand, ne progresse pas plus vite car les industriels n'arrivent pas à se mettre d'accord. C'est typique au fond des difficultés que l'on rencontre en Europe. L'Allemagne pense d'abord en termes de politique industrielle, tandis que la France, dont les armées sont engagées sur le terrain, raisonne davantage en termes de besoins opérationnels. Le feu vert du Parlement allemand au financement du programme d'avions de combat est donc une bonne nouvelle dans ce contexte. Reste maintenant à faire preuve de la même volonté dans les autres programmes. C'est une question d'indépendance stratégique pour l'Europe.
Merci Nicolas Barré, directeur de la rédaction des Échos. Il est 7h16 sur Europe 1. Le regard international, Vincent Herouet. Bonjour Vincent.
Bonjour Mathieu, bonjour Nicolas, bonjour à tous.
Apple Daily, le quotidien pro-démocratie de Hong Kong, publie aujourd'hui son dernier numéro.
Ah oui, alors c'est délicat de sortir un quotidien quand le patron est sous les verrous. C'est difficile quand la rédaction en chef l'est aussi et les ordinateurs saisis. Et c'est carrément impossible quand les comptes sont bloqués. Apple Daily ne pouvait plus verser les salaires des 1300 employés, payer l'imprimerie, régler le loyer. Alors le tabloïd sombre et avec lui les unes criardes, les histoires de sexe, les faits divers qui avaient acclimaté sur les bords de la rivière des Perles, la formule à succès qui est née au bord de la Tamise. Disparaissent aussi les éditos au canon pour défendre la démocratie, elle aussi importée d'Europe. Et on a du mal, évidemment, à invoquer la liberté de la presse, tellement ce combat est galvaudé. Mais à Hong Kong, eh bien, le cas est exemplaire.
Le journal est terrassé par la loi sur la sécurité nationale.
Il a été le premier à en faire les frais l'été dernier. 200 policiers ont perquisitionné avant d'embarquer le propriétaire, le milliardaire Jimmy Lai. La loi prévoit la prison à vie pour les comportements perçus comme relevant de la sécession, de la subversion, du terrorisme ou de l'ingérence étrangère perçue. Hein. C'est tellement vague que même le service météo du journal flirte avec la ligne rouge. C'est fascinant d'observer comment le régime étrangle la dissidence. Il s'est enhardi, ne se gêne plus. En décembre, Jimmy Lai, 73 ans, a été arrêté et enchaîné comme un terroriste. En avril, il a été condamné à 14 mois de prison pour participation à une manifestation pro-démocratie. En mai, il a pris 14 mois de plus pour une manif interdite. Et en juin, donc, 500 policiers ont forcé les portes du journal, confisqué disques durs et portables. Les journalistes savent que leurs sources sont grillées.
Et comment les habitants de Hong Kong réagissent-ils ?
Eh bien voilà, ils sont magnifiques. Quand Jimmy Lai a été embarqué, l'action de son groupe a bondi de 1500% dans la journée. Les lecteurs le remerciaient. Après chaque perquisition, le journal se vend à 500 000 exemplaires au lieu de tirer à 80 000. Ces derniers jours, les habitants de Hong Kong mettaient sur le web leurs photos en train de lire le Apple. À Hong Kong, la société civile résiste au rouleau compresseur du Parti unique. Et aujourd'hui, le dernier numéro du journal devrait tirer à 1 million d'exemplaires. Ce sera une relique, ce sera un souvenir à emporter dans ses bagages avant d'émigrer au Royaume-Uni.
Vincent Herouet, Le Regard International, tous les matins sur Europe 1. Merci Vincent, il est 7h18. Dans un tout petit instant, l'édito sport de Virginie Fulpin et juste après notre rendez-vous d'histoire avec vous, Stéphane Bern. Bonjour Stéphane.
Bonjour Mathieu, se casser la margoulette, oh, c'est une expression qui date un peu, mais d'où vient-elle ?
À tout de suite sur Europe 1.
Europe Matin, le 7-9. Mathieu Béliard.
7h20 sur Europe 1, l'heure de l'édito sport de Virginie Fulpin. Bonjour Virginie.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous.
Les Bleus terminent premiers de leur poule à l'Euro après leur match nul de partout contre le Portugal. Ils affronteront la Suisse en 8e de finale. Dans ce match fou face aux Portugais, c'est Karim Benzema qui a inscrit un doublé. Pour vous, ces buts sont une libération pour Benzema, bien sûr, mais aussi pour l'équipe de France et peut-être même, allons-y, pour tout le pays.
S'il fallait mettre en musique ce match des Bleus contre le Portugal, j'hésiterais pas 2 secondes.
Voilà. Je l'ai même pas demandé.
Ne me remerciez pas surtout de vous mettre ça dans la tête pour toute la journée, c'est cadeau. Il faut bien marquer le coup quand l'équipe de France sort première de cette poule de la mort. On a la musique, voilà les paroles, celle prémonitoire d'Antoine Griezmann. Après une 800e question à peu près sur le fait que Karim Benzema n'avait toujours pas marqué de but depuis son retour, le milieu de terrain avait répondu « Dès qu'il en mettra un, le robinet sera ouvert et ça va couler ». On devrait toujours écouter Grisou. Karim Benzema a inscrit un pénalty juste avant la mi-temps et c'est un peu plus que son compteur qu'il a débloqué avec ce but. Il a ouvert les vannes, laissé la pression couler et il a remis ça juste après la pause avec un but dans le jeu, cette fois dans le plus pur style de ce qu'il a fait à longueur d'année avec le Real Madrid. Et avec ce doublé, il s'enlève un sacré poids sur les épaules. Quand vous avez été absent d'une équipe pendant plus de 5 ans, qu'elle a été championne du monde sans vous et que vous ne marquez pas, ça peut vite faire gamberger. C'est fragile dans la tête un attaquant. Là, Karim Benzema se prouve et prouve à tout le monde qu'il a encaissé la pression de l'équipe de France, qu'il sait répondre, trouver des solutions et qu'il fait bien partie intégrante des Bleus. Sa joie et sa fierté devant les supporters français, c'est un peu plus que la célébration d'un but, c'est une libération.
Son doublé peut aussi faire retomber la pression pour toute l'équipe.
C'est bon, on peut passer à autre chose. On sentait bien depuis le début de l'Euro que les autres joueurs avaient envie et besoin de faire marquer Karim Benzema. Il a eu droit à quelques offrandes non converties. Ça peut faire vaciller un groupe au bout d'un moment, surtout quand vous vous présentez avec un trio d'attaque Mbappé, Griezmann, Benzema, que le monde entier nous envie et que ça fait pchit. C'est toute l'équipe qui peut être ébranlée. Là, il a eu une réponse, une double réponse à toutes les interrogations qui commençaient à poindre et ça libère. Tout n'est pas réglé. Hein. La relation technique entre Griezmann et Benzema ne saute toujours pas aux yeux. Mais ces deux buts peuvent provoquer un déclic. Et puis ce doublé de Benzema peut aussi apaiser les esprits de tous ceux dans le pays qui sont prêts à lui sauter à la gorge à la moindre contrariété. L'attaquant ne peut plus être le bouc émissaire facile en cas d'échec des Bleus. On peut arrêter de surveiller s'il murmure la Marseillaise ou pas pour se tomber dans les bras les uns des autres pour célébrer ses buts. Ouais, ça s'appelle une libération.
Merci Virginie Fulpin, l'édito sport tous les matins sur Europe 1. Lundi soir, hein. Lundi, France-Suisse, 8e de finale. Allez, les choses sérieuses commencent là. Ouais. Bon, elles ont commencé, on peut dire ça à chaque match.
Oui, elles ont déjà commencé avec ce groupe-là quand même.
Merci beaucoup Virginie Fulpin. 7h23, nous retrouvons Stéphane Bern et son mot d'histoire comme tous les matins. Bonjour Stéphane.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous et bonjour à toutes. Quand par le passé on tombait presque, quand on trébuchait à la campagne, nos aïeux nous disaient parfois « Fais attention, tu vas finir par te casser la margoulette ». C'est l'expression délicieusement surannée que je vous propose ce matin.
La margoulette, alors j'imagine que c'est le visage. Goulette, ça ressemble à gueule d'ailleurs, c'est une façon enfantine de le dire.
En tout cas, la première fois que l'on trouve trace de la margoulette, c'est Caroline Commanville qui reçoit une lettre de son oncle le 9 septembre 1873. Il est écrit « Mon serviteur hier a manqué de se casser la margoulette en dégringolant du haut d'un noyer où il lochait des cerneaux. » Locher, c'est secouer un arbre. Hein. Enfin, revenons à nos margoulettes. La lettre est signée Gustave Flaubert. Et je le concède, ça ne nous éclaire pas plus sur l'origine du mot. En fait, goulette, ça vient de goule et gueule, comme vous l'aviez pressenti, Mathieu. Et mar, ça vient de margouiller, qui signifiait mâcher. Et en Normandie, margane, c'est la mâchoire. D'une façon plus générale, gula en latin, c'est le gosier. Et en arabe, goul, c'est loup-garou, un animal dont la gueule est particulièrement redoutable. Se casser la margoulette, on ne le dit plus trop aujourd'hui, chez nos voisins européens non plus, mais de belles expressions cohabitent. En Espagne, pour dire s'écraser le visage, on dit pegarse una hostia. On s'écrase une hostie. Ça doit faire mal. En Angleterre, on dit to do a face plant, qui peut se traduire par un plantage de visage. En Argentine, on est plus poétique. Quand on chute sur la figure, on dit qu'on se casse l'âme. Ça doit être douloureux quand même. Allez, terminons par un sourire grâce à Victor Hugo. Il y a des gens qui vous laissent tomber un pot de fleurs sur la figure du 5e étage et qui après vous disent « je vous offre des roses ». Aujourd'hui, soyez prudents en marchant dans la rue.
Oui, à méditer celle-là. Et à 16h, on vous retrouve pour Historiquement Vôtre, Stéphane.
Oui, on réunit Basil Zaharoff, l'un des plus puissants marchands d'armes durant l'entre-deux-guerres. L'industriel Samuel Colt, qui a armé l'Amérique avec un revolver devenu mythique, et Terminator. Leur point commun, haut les mains, ils sont armés.
À tout à l'heure, 16h, avec Mathieu Noël, bien sûr. 7h25 sur Europe 1, très bon réveil à toutes et à tous. Dans un instant, la météo de Laurent Cabrol. Un nouveau journal avec Sophie Echen. À tout de suite. 7h28 sur Europe 1, c'est l'heure de varier les différentes nuances d'averse avec vous, Laurent Cabrol.
Oh là 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 là, me dites pas que vous avez rallumé le chauffage.
Non, 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 quand même pas.
Je demande à nos
C'est
amis.
Vrai à ce point-là?
À nos amis qui habitent Vannes, Rennes, Brest, il fait 7 degrés, dites-moi. Quand il fait 9 degrés. Et là, nous avons, si vous habitez la banlieue parisienne, 12 degrés. Bon, c'est l'humidité qui nous gêne, c'est pas tellement la température, mais c'est vrai que le temps est très humide avec ces orages successifs, ces pluies qui nous arrivent, qui s'en vont. Alors le soleil, bien sûr, le soleil, c'est un soleil d'été, c'est un soleil qui réchauffe rapidement, mais quand on l'a pas, on est vraiment pénalisé. Alors, soyons optimistes. Alsace, Vosges, Alsace, Vosges, Franche-Comté. côtés les Alpes du Nord et la région lyonnaise, ce sera quand même pluvieux et surtout orageux.
C'est
et
optimiste.
Et orageux assez fort. Hein. Les orages seront assez forts, donc soyez vigilants. On peut faire en rire parce que franchement, ça devient...
Ah oui, j'attendais le département de l'optimisme.
L'Aquitaine, le Béarn, le Midi-Pyrénées, les Cévennes, la Bourgogne et les Ardennes. Là, ce sont des averses, mais calmos averses, il n'y en a pas beaucoup. Mais enfin, c'est pas encore ça. Et puis les régions, quand même, ça va s'arranger. La Champagne, la région parisienne, le Centre, les Pays de la Loire, le Poitou-Charentes, la Bretagne, la Normandie, la Picardie, le Nord. Dans toutes ces contrées, ça ira beaucoup mieux. Ah, en Méditerranée, mes amis, là, vous allumez rien du tout. Hein, parce qu'en Méditerranée, il fera 20-30 degrés à Bastia aujourd'hui, 28 à Marseille, et 23 degrés à Bordeaux, 22 à Lyon. Allez, 21 à Paris.
Vous avez mis le barbecue quand même.
Ah ouais,
bah oui, on allume pas le chauffage, on allume le barbecue. Merci Laurent Cabrol, la météo détaillée toutes les demi-heures sur Europe 1. Très bon réveil à tous, Sophie Hachène nous a rejoint. Bonjour Sophie.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous.
Un nouveau journal, il est presque 7h30.
Quand vous avez des experts qui viennent vous dire c'est pas possible, cette bande on peut pas l'utiliser, voilà, et que d'un autre côté il y a des gens qui disent ah ben si moi je le reconnais, c'est faire peu de cas du fait que le témoignage humain il est fragile face à l'expertise.
Journée décisive au procès de Willy Bardon jugé pour le meurtre d'Élodie Kulik. Les experts et les proches de l'accusé se divisent autour du dernier appel passé par la victime. Dans ce journal, le second tour des régionales et une gauche unie qui croit en ses chances en Île-de-France. La colère des correcteurs du bac de philo à cause de la mauvaise numérisation des copies. Et puis une page d'histoire qui se tourne dans le monde de l'édition. Les éditions de Minuit sont rachetées par Gallimard.
Juste après ce journal, La Touche Âme, c'est le regard décalé de Bertrand Chameroy sur l'actualité. Le tête-à-tête Europe Matin avec le professeur Cyril Cohen, directeur du laboratoire d'immunothérapie de l'université de Bar-Ilan en Israël. L'édito politique, Nicolas Bétou.
L'élection présidentielle se déroulera les 10 et 24 avril prochains, des dates qui provoquent déjà une polémique.
Et puis enfin, avant 8h, Nicolas Canteloup qui conseille à sa façon l'invité politique de la matinale. Aujourd'hui, Sonia Mabrouk reçoit l'ancien Premier ministre Manuel Valls. Très bon réveil à toutes et à tous. Vous êtes sur Europe 1.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
26 secondes quasi inaudibles, mais 26 secondes déterminantes au cœur du procès en appel de Willy Bardon. C'est l'enregistrement d'un appel très bref passé par Élodie Kulik aux pompiers. Principal élément d'accusation très contesté. Lionel Gougelot.
Un scientifique réputé en matière d'analyse vocale dépose en tant que témoin, et il est formel, la reconnaissance d'une voix est impossible quand on ne distingue pas les mots prononcés sur un enregistrement. Un expert de la police scientifique met en garde la cour. Il y a une marge de doute, dit-il, je ne peux que vous appeler à la prudence. Pas de quoi perturber Didier Seban, avocat du papa d'Élodie, qui attend aujourd'hui les témoignages de proches qui ont bel et bien identifié Bardon.
Là, on a de nombreuses personnes qui ont reconnu Willy Bardon sur cette cassette, qui leur a été passée à plusieurs reprises. Ce sont des personnes qui ont été réinterrogées, auprès desquelles on a vérifié qu'ils reconnaissaient bien la voix de Willy Bardon parmi une série de voix. Et c'est ce qui a convaincu la cour d'assises d'Amiens. Voyons pas comment la cour d'assises du Nord ne serait pas convaincue de la même manière.
Mais pour Stéphane Dacco, l'un des avocats de la Défense, le doute autour de cet enregistrement doit bénéficier à l'accusé.
Quand vous avez des experts qui viennent vous dire « c'est pas possible », cette bande, on ne peut pas l'utiliser. Voilà, comprenez, ouvrez les yeux, on ne peut pas utiliser cette bande. Et que d'un autre côté, il y a des gens qui disent « ah ben si, moi je le reconnais ». C'est faire peu de cas du fait que le témoignage humain, il est fragile face à l'expertise.
Expert contre témoignage, c'est certainement le verdict qui se joue actuellement autour de cette bande-son. Doué, Lionel Gougelot, Europe 1.
Les élections régionales à quelques jours du second tour. Coup de projecteur ce matin sur l'Île-de-France. La gauche peut-elle l'emporter?
En tout cas, l'écologiste Julien Bayou, la candidate du PS Audrey Pulvar et l'insoumise Clémentine Autain ont fusionné leurs listes. Et parmi ces trois mousquetaires, c'est le patron des Verts qui endosse le costume de D'Artagnan. Alors cela sera-t-il suffisant pour renverser Valérie Pécresse? Élément de réponse avec Claudia Bertram.
Dans le camp de Julien Bayou, on y croit dur comme fer. Même si la présidente sortante, Valérie Pécresse, est arrivée largement en tête au premier tour avec près de 36% des voix. À eux trois, les candidats de gauche totalisent un peu plus de 34%. On est au coude à coude, répète-t-on dans leurs entourages. Mais les additions se font rarement aussi facilement. La politique, c'est pas de l'arithmétique, c'est de la dynamique, explique un socialiste qui l'assure. La dynamique est là. Depuis qu'ils ont topé lundi après-midi, Julien Bayou, Audrey Pulvar et Clémentine Autain multiplient les déplacements ensemble pour afficher leur unité. L'accord a été signé dans la salle d'un hôtel qui s'appelle Risque et Sérénité, raconte un acteur qui a suivi cela de près et qui s'en amuse. Risque pour Valérie Pécresse, sérénité pour la gauche. Un écologiste veut croire que la possibilité de bascule peut mobiliser les troupes dimanche. Valérie Pécresse a bien identifié le danger et s'emploie à dénoncer une gauche extrême. Bref, c'est à la liste qui mobilisera le mieux.
Après les lycéens la semaine dernière, cette semaine, ce sont les profs qui planchent sur la philo. L'heure est à la correction des copies, mais la tâche s'avère compliquée cette année.
Oui, parce que pour la première fois, toutes les copies sont scannées, dématérialisées. Et les corriger s'apparente à un chemin de croix, selon ce prof de philo qui s'est confié à Virginie Riva.
Il y a un ensemble de copies qui sont floues, certaines sont à l'envers. Il y a également des copies auxquelles il manque des pages. Lorsque les copies sont anonymisées, il y a une partie des informations qui disparaissent aux yeux des correcteurs, ce qui est tout à fait normal. Il y a un certain nombre de cas pour lesquels ça n'a pas fonctionné. Les correctrices et correcteurs peuvent accéder au nom de l'élève qui a composé la copie. Dans d'autres cas, ce qui a disparu, c'est non seulement le nom de l'élève, mais aussi une partie du texte qui a été écrit par les élèves, ce qui fait que les copies se trouvent incomplètes.
Et pour pouvoir faire leur travail correctement, les profs demandent un retour à la correction papier ou bien un délai supplémentaire.
L'Euro de foot, à présent, on parlait juste avant ce journal avec Virginie Fulpin de la performance de Karim Benzema, héros des Bleus contre le Portugal hier soir. Les Bleus qui connaissent désormais leur adversaire en huitième de finale.
Et ce sera donc la Suisse lundi prochain à Bucarest. L'équipe de France n'est pas la plus mal lotie si l'on compare avec les affiches des autres huitièmes de finale. Mais attention tout de même à ne pas sous-estimer notre adversaire, Jean-François Pérez.
Souvent placée, jamais gagnante, c'est un peu le résumé de la Suisse en football. Présente à chaque fois ou presque lors des grands rendez-vous, mais qui a du mal à se faire remarquer ensuite. Les Suisses n'ont d'ailleurs pris que la troisième place de leur groupe. Après avoir reçu un cinglant 3-0 face à l'Italie, ils se sont qualifiés in extremis en dominant la Turquie. Méfiance, malgré tout, c'est l'avis de notre consultante Aline Riera.
La Suisse, il n'y a pas d'énorme individualité. Il y a un excellent gardien, Sommer. Et puis derrière, c'est vraiment une équipe qui est hyper irrégulière, capable du meilleur comme du pire. Mais contre les gros, ils ont tendance à toujours faire des bons matchs. Donc voilà, c'est à ne pas prendre à la légère.
La France et la Suisse se sont fréquemment croisées ces dernières années. Lors du dernier Euro, elles s'étaient neutralisées 0-0. Didier Deschamps préférera sans doute se souvenir du 5-2 infligé à nos voisins lors de la Coupe du Monde 2014 au Brésil, avec notamment deux buteurs nommés Olivier Giroud et Karim Benzema.
Jean-François Pérez. Et puis, tiens, vous parliez, Sophie, quand même des affiches des huitièmes de finale. Écoutez, quand même quelques-unes comme ça. Croatie-Espagne. Ça a de la gueule, comme on dit. Belgique-Portugal ou encore Angleterre-Allemagne. On va suivre ça et on va vivre ça sur Europe 1, vous le savez, tout au long de cet euro. Et puis, vous voyez ces livres au titre bleu, sur fond blanc, les mythiques éditions de minuit viennent d'être rachetées par Gallimard.
Par le groupe Madrigal, sa maison mère, les montants engagés n'ont pas été divulgués, mais cet accord vient mettre un terme à 80 ans d'indépendance. Nicolas Caro.
En général, quand on parle des éditions de minuit, on dit les prestigieuses éditions de minuit. Et pour cause, la maison a abrité et abrite encore des géants de la littérature. Samuel Beckett, Marguerite Duras, Jean-Philippe Toussaint, Éric Chevillard ou Jean Echenoz. Fondées en 1941, les éditions de minuit étaient dirigées à partir de 1948 par un éditeur de légende, Jérôme Lindon. C'est lui notamment qui sera à l'origine de ce qu'on a appelé le nouveau roman, avec des écrivains tels qu'Alain Robbe-Grillet ou Michel Butor. Irène Lindon, sa fille, 72 ans aux commandes de la maison, a dit penser à l'avenir des collaborateurs et des auteurs en s'adossant aux éditions Gallimard qui ne sont d'ailleurs pas en reste côté prestige. Mais l'indépendance de minuit était devenue proverbiale. En 59, Gaston Gallimard écrivait ceci à Jérôme Lindon : « Je vous envie parfois d'être libre et de savoir l'être. »
Nicolas Caro.
J'aime bien, quand on finit comme ça sur une phrase, j'ai envie de la réfléchir. Je vous envie d'être libre et de savoir l'être. Merci Sophie Echen, c'était le journal de 7h30 sur Europe 1, il est 7h37.
Europe 1, Mathieu Béliard.
Dans un tout petit instant, le professeur Cyril Cohen, directeur du laboratoire d'immunothérapie de l'université de Bar-Ilan en Israël. C'est l'invité du tête-à-tête Europe Matin. On va poser des questions sur ce fameux variant Delta et sur le risque de connaître une recrudescence de l'épidémie. Mais d'abord, la Toucham, Bertrand Chamerois, son regard décalé sur l'actualité. Bonjour Bertrand.
Bonjour Mathieu, ce matin je vous parle détente et football.
A tout de suite sur Europe 1.
Europe Matin, le 7-9, Mathieu Béliard.
7h40 sur Europe 1, l'heure de retrouver Bertrand Chamerois. C'est la Toucham, bonjour Bertrand.
Bonjour, on se connaît ?
Non ?
Je suis désolé, je ne suis pas physionomiste, mais attendez, votre tête me dit quelque chose. Ses yeux là, ses cheveux... Attendez, me dites rien. Non, mais on s'est déjà vu quelque part, j'en suis sûr. Béliard ! Mais oui, c'est ça, Mathieu Béliard, ouais, exact.
Oui, toujours.
Ah, on faisait de la radio ensemble il y a quoi ? Il y a une semaine ? Oh, c'est fou de se retrouver ici. Ah, oh, ça fait longtemps, mais qu'est-ce que tu deviens ? Bon, on en reparlera plus tard, mais ça fait plaisir en tout cas. Bon, tiens, une autre nouvelle. Après des mois de flou, hier, la Cour de cassation a autorisé la vente de CBD en France s'il est produit dans l'Union européenne. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas le CBD, c'est une sorte de cannabis light. C'est un peu serveuse que le catalogue La Redoute est au site porno ou la Savora à la moutarde extra forte.
Mais ça n'a rien à voir avec ce qui s'est passé avant.
Ah non, pas du tout. C'est un produit non stupéfiant qui a des effets anxiolytiques légers. À la différence du THC, cette molécule n'est pas psychotrope et ne présente pas de danger pour la santé. Le CBD permet de se détendre sans créer d'addiction, de réguler les humeurs, les crises d'angoisse, d'apaiser. Putain, mais c'est pile ce qu'il nous faut en ce moment. Vous pouvez en consommer en huile, en bonbons, en infusion. Alors, il y a tout un tas de variétés dans les boutiques. Hein. Anti-stress, relax express, douce nuit, raclée au régional. Moi, j'ai eu un petit coup de cœur pour l'infusion fin de saison compliquée. J'en ai commandé 4 transpalettes. Elles arrivent d'ici la fin de la matinée. Ne me remerciez pas, c'est pour moi. Non, mais ça fera du bien. Hein. Quand tout le monde est tendu, hop, petite infusion de CBD et...
Bonjour.
Et tout le monde se détend, ben voilà, c'est tout. Alors eux, ça n'a rien à voir non plus. Je ne sais pas s'ils consomment du CBD. Je pense qu'ils sont plus boulettes. En ce lendemain de match, je me devais de vous parler des héros du moment.
Oh les champions, on est tous ensemble.
Les champions des vrais. Le week-end dernier, 6 supporters français manquaient à l'appel pour supporter les Bleus qui affrontaient la Hongrie à Budapest. La raison, ils se sont rendus à Bucarest, à 800 km. Donc ils se sont aperçus de leur erreur en buvant des bières avec des supporters ukrainiens présents pour soutenir leur équipe. Jusqu'ici, ni la présence de drapeaux ukrainiens partout, ni les fans en jaune et bleu qu'ils avaient suivis depuis l'aéroport ne leur avaient mis la puce à l'oreille. C'est seulement quand le reporter roumain, intrigué de les voir ici, les a interrogés qu'ils ont compris. Je cite l'un des 6 amis. « Nous n'avons jamais pensé qu'ils étaient ukrainiens. Maintenant, je me rends compte que nous ne pouvions même pas le comprendre. Nous ne connaissons pas non plus le hongrois et nous ne connaissons ni l'ukrainien ni le russe. Et cette conclusion sans appel, nous devons en apprendre davantage sur l'Europe. Des champions, des vrais, bonne journée et bonne infusion.
Des vrais champions, la Toucham, tous les matins à 7h40, c'est sur Europe 1. Merci Bertrand, on vous retrouve à 10h tout à l'heure avec Philippe Vandel dans Culture Média, 7h42.
Europe Matin, le 7-9.
Le variant Delta, 9 à 10% des cas de Covid en France, avec une pointe à 70% dans les Landes. Mais surtout, il pourrait représenter, et c'est le dernier chiffre, 90% l'été prochain en Europe. En Israël, on apprend que des cas dépistés de variant Delta sont des personnes vaccinées. Alors, on se pose des questions. On les pose à mon invité, le professeur Cyril Cohen, directeur du laboratoire d'immunothérapie de l'université de Bar-Ilan, en Israël.
Le tête-à-tête.
Mathieu Béliard.
Professeur Cyril Cohen, bonjour.
Bonjour Mathieu, bonjour.
Alors d'abord, très simplement, avant de creuser bien sûr ces chiffres et en fonction des données dont nous disposons, est-ce que la situation avec ce variant vous inquiète et pourquoi ?
Je dirais que de manière générale, je ne peux pas dire inquiet totalement, mais nous sommes anxieux, je dirais. Pas au point de prendre un CBD, comme vous l'avez mentionné, mais quand même, c'est une situation qui nous interpelle, parce qu'en fait, en Israël, comme vous le savez, nous avons levé toutes les restrictions. Tout allait bien, plus ou moins, jusqu'à, je dirais, la semaine dernière. Tout continue d'aller bien, en général. C'est juste qu'il y a eu cette montée de cas, et on est passé, en fait, d'une vingtaine de cas quotidiens à une centaine. Et ça, pour nous, c'est une lumière rouge qui s'allume et c'est un voyant rouge. Et donc, il faut prendre des mesures et c'est ce que l'on fait aujourd'hui en Israël.
Parce qu'on fait entre x5 et x10 sur le nombre de cas. Mais rappelons quand même qu'une centaine de cas aujourd'hui, en janvier, au pic de l'épidémie, c'était 10 000 cas recensés chaque jour en Israël. Bon, la réalité, c'est que 40% des cas dépistés de variant Delta sont des personnes vaccinées. Qu'est-ce que ça nous dit sur la politique vaccinale ? On sait qu'Israël a été très actif sur cette question.
Oui, Israël est le leader de la vaccination dans le monde. Et à ce niveau-là, puisque pratiquement 60% de la population a reçu les 2 doses. Maintenant, il faut prendre en compte une chose. Nous savons très bien que le vaccin n'empêche pas totalement l'infection. Donc, il y a possibilité d'être infecté. Nous, ce qui nous intéresse plus, même si on parle de 40%, et c'est pas un échantillon qui est représentatif de la population, ça aussi, il faut le dire, même si parce qu'il y a énormément d'enfants aussi détecté. Non, je crois que ce qu'il faudra prendre en compte, surtout, c'est ce qui va arriver d'ici les semaines à venir, on va dire à peu près 2-3 semaines, voir si on a plus de cas graves, évidemment, de décès. Parce qu'il faut le dire aussi, en Israël, aujourd'hui, ça fait plusieurs jours, ça fait plus d'une semaine qu'on n'a pas de décès. On n'a pas de décès dû à la Covid-19 en Israël. Donc, de ce point de vue-là, le vaccin marche et nous a aidés. Maintenant, oui.
Alors, justement, je voudrais qu'on s'arrête un tout petit instant là-dessus. Parce que parfois, vous savez, c'est difficile à appréhender de temps en temps cette idée. simple. Concrètement, on est vacciné, on est protégé, mais on peut quand même être contaminé. Faut bien l'appréhender, ça.
Bien sûr, oui, non, parce que les gens ne comprennent pas. Vous savez, je vois, là, je suis en France pour un congrès à Montpellier, justement sur la Covid, on m'a invité. Et donc, ce que je vois et ce que j'entends, c'est que je suis vacciné, on peut se voir, on peut s'embrasser, on peut ci, on peut ça. C'est pas exactement ça. C'est-à-dire que même une personne, et là on le voit en Israël, ça on le savait, même une personne qui est vaccinée peut transmettre dans certains cas le virus, la transmission est moindre, c'est ça, le vaccin réduit la transmission. Nous, nos études montrent 80% à peu près sur le variant alpha, le variant anglais. Donc une personne quand même peut porter le virus, mais il ne se déclare pas, et donc on parle évidemment de cas asymptomatiques lorsque vous êtes vacciné, par exemple.
Alors vous parliez du variant anglais, celui-ci est plus contagieux, et allons plus loin dans cette question sur la vaccination, et insistons sur la deuxième dose. En Union européenne, pour redonner quelques chiffres, 40% des plus de 60 ans n'ont qu'une dose. Ça, c'est ce qui doit nous alarmer ce matin.
Ça, c'est une grosse erreur. Excusez-moi de parler de manière directe et crue, c'est une grosse erreur. En Israël, pour que vous compreniez, on a au-dessus de 50 ans, 90% qui sont avec double dose. Ça, c'est notre muraille. Ça, c'est ce qui va permettre, et on le pense même si pour l'instant, on voit avec ce variant Delta des infections, etc. C'est ce qui va nous permettre, nous le pensons, de ne pas revoir les images terribles qu'on a vues au mois de janvier avec des hôpitaux qui étaient engorgés et beaucoup, beaucoup, beaucoup de problème, je dirais, de gestion, malheureusement, de cette crise, lorsque nos hôpitaux étaient dans un tel état. Donc ça, c'est ce que nous comptons, c'est la chose sur laquelle nous comptons.
Il faut se vacciner, bien respecter les délais et bien recevoir la deuxième dose, sinon on n'est pas complètement vacciné. Alors les autorités sanitaires israéliennes ont mis en garde contre le risque d'une nouvelle vague. J'aimerais savoir ce que ça veut dire en fait. Est-ce que ça veut dire rester prudent ou est-ce que ça veut dire une nouvelle vague arrive et on va la connaître quoi qu'il arrive ?
Non, là pour l'instant on reste prudent, on prend des mesures, une fois de plus on a fait des choses que aucun pays n'a fait parce que vu notre situation, vous savez on avait en tout et pour tout, bon je vous le dis, on avait la semaine dernière 200 cas en tout et pour tout dans Israël, donc c'est pratiquement rien, c'est moins qu'une grippe, qu'un rhume ou quoi que ce soit, là cette semaine c'est monté à 600, donc on voit cette montée, on a des marges d'action, c'est ça qui nous permet quand même de prendre ces décisions et de pas tout de suite confiner ou reconfiner parce qu'on ne pense pas que ce sera une nouvelle vague. Au contraire, nous pensons qu'il va y avoir un scénario d'infection.
Mais
sans trop de malades graves et nous espérons de décès.
Alors, je vais rappeler qu'Israël reste fermé aux non-ressortissants, à l'exception de quelques dérogations spécifiques. La vaccination, vous appelez à la vaccination le plus vite possible, le plus rapidement possible. Je reviens chez vous, plus de 1000 personnes ont été obligées de se placer en quarantaine au nord de Tel Aviv, après que des voyageurs soient rentrés de Chypre avec ce variant Delta. Aujourd'hui, quand on apprend qu'il y a un cluster, il faut fermer tout de suite, de prendre des mesures radicales mais très ciblées, c'est ça ?
C'est le but. C'est le but des décisions du gouvernement. C'est le but lorsque nous avons des débats au ministère de la Santé, etc. C'est le but parce qu'en fait, c'est comme un départ de feu. Il faut l'éteindre le plus rapidement possible et ne pas laisser ça se propager. Et nous savons que l'aéroport est notre talon d'Achille. C'est par l'aéroport, en fait, que ces variants sont importés. La semaine dernière, par exemple, en Israël, on avait quelques cas et tous ces cas étaient à l'aéroport. C'était même pas des cas en Israël. Donc, ça veut dire qu'il faut surveiller de manière, je dirais, très importante l'aéroport et ne pas permettre à ces variants de rentrer et de se propager.
Alors, vous avez rappelé la position d'Israël sur la vaccination, l'avance prise par Israël sur la vaccination. C'est pas tout à fait pareil chez nous et l'Union européenne, du côté de l'Union européenne, on estime que le variant Delta pourrait représenter 90% des nouveaux cas de Covid à la fin du mois d'août. Est-ce qu'au sortir de l'été, avec votre regard, professeur, est-ce qu'au sortir de l'été, on va connaître une nouvelle vague ici ?
Écoutez, je ne sais pas, je veux dire, il faut être très prudent, hein. Je n'ai aucune honte à dire je ne sais pas. Il faut être très prudent avec ses estimations. Quoi ?
Non, disons-le quand on ne sait pas. Vous avez raison, il faut absolument éviter de dire n'importe quoi.
Voilà, donc moi je crois qu'il faut prudent, je crois qu'il faut pas trop être alarmiste. Nous le savions, vous saviez, quand on parlait du variant alpha, j'avais dit plusieurs fois dans les antennes françaises qu'il fallait justement faire très attention. On n'avait pas encore la vaccination et nous avons subi. Et puis vous, après nous, vous avez subi vraiment, une catastrophe à cause de ce variant alpha. Là, je veux penser que si on arrive à vacciner rapidement et efficacement comme on l'a fait en Israël, et nous c'est pas fini encore, on continue quand même à vacciner, je veux penser que cela arrêtera ou freinera justement ce variant. On est toujours à la merci d'un variant, mais nous prenons en compte que le vaccin peut aider.
Merci, merci beaucoup professeur Cyril Cohen, directeur du laboratoire d'immunothérapie de l'université de Bar-Ilan en Israël. Voilà, vous informez, vous éclairez, pas non plus créer la panique pour autant. Merci Cyril Cohen. Il est 7h51 sur Europe 1.
Europe 1, Mathieu Béliard.
À suivre l'édito politique, Nicolas Bétou, à tout de suite.
Europe Matin, le 7-9, Mathieu Béliard.
7h53 sur Europe 1, c'est l'heure de l'édito politique de Nicolas Bétou. Bonjour Nicolas.
Bonjour Mathieu.
À peine l'information sur les dates de la prochaine élection présidentielle avait-elle fuité qu'elle devenait un objet de polémique.
Eh oui, décidément le pouvoir a un talent inégalable pour transformer toutes les dates d'élection en polémique politique. L'an dernier, le Covid avait déglingué le mécanisme des élections municipales dont les deux tours ont été éloignés en dépit du bon sens. Cette année, Emmanuel Macron a essuyé de nombreuses critiques pour avoir essayé à plusieurs reprises de repousser les dates des élections régionales et même, pourquoi pas, carrément après la présidentielle de 2022.
Alors, présidentielle qui, on le sait maintenant, aura lieu les 10 et 24 avril prochains.
Et voilà, et cette annonce scandalise Xavier Bertrand. Il l'a dit hier au micro de Sonia Mabrouk. Pour lui rendre public ces dates-là, maintenant, c'est une manœuvre de l'Élysée qui envoie aux électeurs un message sur le thème « Pas la peine de vous déplacer dans 3 jours pour les régionales, le vrai match commencera seulement en avril prochain ». Objectif, bien sûr, faire oublier l'échec écrit d'avance de la majorité présidentielle à ce scrutin.
Cette accusation, elle est crédible ?
Bon, c'est impossible à prouver, et puis les Français ne sont peut-être pas stupides à ce point-là, mais c'est vrai que personne ne peut garantir que cette idée machiavélique n'a pas effleuré l'esprit de certains stratèges de l'Élysée. Bon, cela dit, une autre critique du président des Hauts-de-France semble plus solide. Dévaloriser l'élection de dimanche, c'est nourrir l'abstention. Et évidemment, après le triste record du week-end dernier, c'est de la part du pouvoir prendre un risque assez incompréhensible.
Marine Le Pen, elle aussi, a pointé le risque de nourrir l'abstention.
Oui, oui, elle s'est insurgée contre le choix du 24 avril, un jour où absolument toutes les zones scolaires seront en vacances et là aussi, abstention garantie.
La patronne du Rassemblement National a affirmé qu'il fallait changer ses dates.
Ce qui est en pratique quasi impossible. Alors changer les dates des vacances scolaires de Pâques, on imagine le tohu-bohu. Changer les dates du scrutin pour éviter les vacances ou les jours fériés du 1er et du 8 mai, ça voudrait dire avancer les élections de plus d'un mois, ce qui est interdit par la Constitution. Non, la réalité, c'est qu'il n'y a pas, à cause des hasards du calendrier, de bonnes dates pour la présidentielle de 2022. Alors, plutôt que d'aborder le sujet par cette question-là, des dates, mieux vaudrait se concentrer sur le sujet beaucoup plus fondamental, celui-là, de la lutte contre l'abstention, et justement prendre appui sur la difficulté qu'il y aura à voter l'an prochain pour sortir notre code électoral de la poussière du XXe siècle et le moderniser en autorisant le vote par correspondance, la procuration en un clic, et très vite, pourquoi pas, le vote par Internet.
Oui.
Ce n'est pas parce qu'on revendique d'être une vieille démocratie qu'il faut se figer sur des règles d'un autre âge.
Vous êtes pour vous, Nicolas ? Vous êtes ces moyens techniques modernes pour voter ?
Je pense que si on peut payer, faire toute une série d'opérations qui sont très sécurisées par Internet, on doit arriver un jour à voter par Internet.
Votre édito politique, c'est tous les matins. Merci Nicolas Bétou, directeur du journal L'Opinion. 7h56. Tous les matins, Nicolas Canteloup conseille à sa façon, avant 8h, l'invité politique de la matinale. À 8h15, Sonia Mabrouk reçoit Manuel Valls, l'ancien Premier ministre, et c'est Jean-Luc Mélenchon qui voulait lui dire un mot.
Jean-Luc Mélenchon qui dira mon gna gna gna, mais non, Béliard. Et voilà, et Bétou qui ricane, voilà. Je ne veux pas lui dire un mot à Valls. Hein, je veux lui signifier, lui dire tout mon mépris. Voilà. Rendez-vous compte, Valls, socialiste qui appelle à ne pas voter pour l'union de la gauche en Ile-de-France. Hein. Pourquoi ? Parce qu'il y a ma candidate Clémentine Autain dedans. Voilà, je sais qu'elle énerve tout le monde, hein, ma Clémentine. Même moi, elle me fout des boutons à me faire écouter. Oui, ben oui, du Camélia Jordana, toute la journée, elle me fait écouter. Mais je le dis, c'est une question de principe. Hein. Un socialiste qui appelle à ne pas voter pour la liste où il y a les socialistes, non, ça ne fait pas. Voilà. Il appelle à voter pour qui alors ? On vote pour quoi ? Hein, pour l'extrême droite, pour la droite, pour sa mère ? Hein. Puis franchement, c'est couche de fil blanc. La majorité se prend une branlée, on parle de remaniement, et tout d'un coup, là, qui c'est qui revient toquer à la porte ? Coucou, c'est moi, c'est Manuel Valls, si vous avez besoin, je suis dispo. Mais quel paillasson, cet homme !
Oui, non. Alors à ce sujet, Monsieur Béliard, bonjour.
Bonjour Jean Castex.
Oui, nous avons bien vu que Manuel Valls était disponible. Mais bon, comment vous dire, déjà que nous ne sommes pas très populaires, hein, il y a qu'à voir nos scores régionales, on n'a pas tellement besoin de descendre encore plus bas. Hein. Donc, cher Manuel, merci, mais non merci. Hein. Allez voir la droite si vous le souhaitez. Hein. Non seulement ils sont très hauts à droite, mais en plus, vous êtes d'accord sur tout. Allez-y.
C'est signé Nicolas Canteloup. Et vous retrouvez donc Manuel Valls, l'ancien Premier ministre, à 8h15 au micro de Sonia Mabrouk. Et la revue de presse, bien sûr, 8h45, 7h57. Très bon réveil à toutes et à tous sur Europe 1. Laurent Cabrol est avec nous, il est 7h59 sur Europe 1.
Les pluies sont bien dans l'Est, hein, enfin sur la partie Est de la France. Elles partent même de la Haute-Garonne, le Quercy, la Corrèze, l'Allier, la Meuse, la Moselle. Et elles s'intègrent sur toutes les régions qui sont à l'intérieur, entre ces régions et la frontière. Lyon, nos amis lyonnais ne sont pas gâtés en ce moment. Hein. Il y a même quelques orages ici ou là autour de Lyon. Et franchement là, le temps n'est pas folichon. Ben voilà, il va falloir aller bosser avec le parapluie. Et puis partout ailleurs, c'est quand même beaucoup plus calme. Alors on peut espérer des averses, mais pas trop quand même, sur le sud de l'Aquitaine, le Béarn, le Midi-Pyrénées, l'Auvergne, les Cévennes, la Bourgogne et les Ardennes. On peut espérer des éclaircies tout court sur la Champagne, la région parisienne, les Pays de la Loire, le Poitou-Charentes, les régions qui bordent la Manche en général, les éclaircies qui vont apparaître dans l'après-midi, et puis du soleil en Méditerranée. Voilà, bon pour une journée qui s'annonce en demi-teinte. Demain, il y aura un petit peu plus d'éclaircies sur la France, et les températures aujourd'hui sont encore bien fraîches, entre 20 et 28 degrés.
Merci beaucoup, Laurent Cabrol. Très bon réveil à toutes et à tous. Vous êtes sur Europe 1. On écoute Le Monde change.